Décryptage, Marie Casadebé.
70 jours après les élections législatives, l'Italie est en passe d'avoir un nouveau gouvernement, un gouvernement impensable avant le scrutin du 4 mars. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue cherchent à former ensemble une équipe après plusieurs jours de discussions pour élaborer un programme commun. Si l'attelage tient jusqu'au bout, il donnera naissance au premier gouvernement anti-système d'Italie, le premier d'Europe de l'Ouest également. Un parti qui fait tout pour être inclassable et une formation d'extrême droite. Qu'ont-ils en commun? Quel obstacle ont-ils dû dépasser pour finalement faire alliance? Et que dit cette coalition de l'état de la politique italienne? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Ludmila Hakon.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Italie. Et nous sommes aussi en ligne avec Anaïs Ginori. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes la correspondante en France du journal italien La Repubblica. Alors mesdames, je vous propose de jouer en quelque sorte au jeu des 7 erreurs ces 20 prochaines minutes, ce qui rapproche, ce qui éloigne le mouvement 5 étoiles et la Ligue, cet attelage que je disais impensable avant les élections législatives. Déjà, les deux formations s'autoproclament anti-système. Qu'est-ce qu'elles ont d'anti-système? La Ligue, pour commencer, Ludmila Hakon, un parti qui a déjà participé à des coalitions gouvernementales.
Alors déjà, la Ligue n'est plus, avant c'était la Ligue du Nord. Et elle est devenue la Ligue, ce qui montre bien que Matteo Salvini a des ambitions nationales. Donc, il l'a montré. Et qu'est-ce qu'il a d'anti-système? C'est-à-dire, il critique la politique précédente, alors qu'il a quand même fait partie, enfin, pas lui-même des gouvernements Berlusconi, par exemple, mais il pense qu'on ne s'occupe pas des Italiens, qu'on s'occupe d'autres choses, et notamment des immigrés, et qu'il veut absolument changer ce système. Il critique les lois qui ont été faites sous le gouvernement Renzi et sur le centre-gauche en particulier.
Pour le mouvement 5 étoiles, Anaïs Ginori, être hors du système, c'est finalement totalement dans son ADN.
Oui, alors, comme vous venez de rappeler, la Ligue a déjà... c'est d'abord un des partis les plus vieux du système italien, parce que les partis ont extrêmement changé dans les dernières 20 années. Et la Ligue, qui était un parti né dans les années 90, même s'il a changé de nom, reste justement un des plus anciens partis, alors que le mouvement 5 étoiles est plus jeune. Il a presque 10 ans, mais il n'a effectivement jamais gouverné, contrairement à la Ligue. Il n'est jamais allé au gouvernement. Il a, depuis quelques années, il est au gouvernement dans des villes, notamment la capitale, avec des expériences qui ne sont pas toujours heureuses, mais c'est vrai qu'il peut encore se présenter comme une force anti-système. De toute manière, l'idée de se présenter comme anti-système, c'est sur le programme pour la Ligue et pour le mouvement 5 étoiles, c'est dans l'idée d'une rupture sur, vous venez de le dire, sur l'immigration, d'une rupture sur le rapport à l'Europe. Alors après, on va peut-être en parler, mais cette rupture, évidemment, à l'épreuve maintenant du pouvoir, elle est en train de s'adoucir, mais le discours, malgré tout, reste très très fort et inquiétant.
Ludmila Hakon, il est inclassable, ce mouvement 5 étoiles. Beppe Grillo, le fondateur, lui disait lui-même, ni de droite, ni de gauche, du côté des citoyens.
Alors déjà, il faut rappeler que c'est un ancien acteur comique qui avait dénoncé la corruption dès les années 80. Il a fait un parti qui se adresse aux jeunes, qui a beaucoup utilisé les réseaux sociaux et les plateformes informatiques. Et donc, il se situe par ce biais-là, d'une façon tout à fait nouvelle. Il faut dire aussi que c'est un parti qui n'est pas transparent au niveau de ses élections ou de ses dénominations. Nous ne savons pas très bien comment les choses se passent au sein de ce parti. C'est un parti qui fait appel il est contre la corruption. Il faut dire qu'il y a de quoi en Italie, dénoncer la corruption et la mafia. Et c'est un parti qui ne veut pas se dire parti aussi parce qu'il veut rejeter tout ce qui a été le système des alliances précédentes dans les partis traditionnels.
Alors justement, ce à quoi on assiste, c'est finalement une alliance, alors qu'effectivement, le mouvement 5 étoiles avait dit qu'il ne ferait pas d'alliance. Là, il est bien obligé, donc avec la Ligue. Finalement, est-ce que c'est pas déjà un peu renoncer à son identité?
Ils disent, 5 étoiles, ils disent que c'est un contrat. Ils disent que c'est un contrat, ils ont signé un contrat hier chez le notaire, avec un certain nombre de points. Et ils disent que ce n'est pas une alliance parce qu'ils vont s'entendre sur un certain nombre de points, mais ils ne considèrent pas ça comme une alliance organique qui, pour eux, renvoie à l'ancien modèle de faire de la politique, puisque pour eux, la politique doit être faite par les citoyens, et donc il faut être dans un autre état d'esprit. Ce sont les citoyens qui devraient décider, et non pas les chefs de parti ou les vieux systèmes politiques.
Alors, vous me disiez tout à l'heure, en antenne, que finalement, cette identité-là, cette recherche de l'antisystème, ce se traduit déjà dans les actes et dans le processus de formation du gouvernement?
Oui, alors il y a quelque chose d'absolument inédit. Et donc il y a deux partis mouvements, si vous voulez, qui se présentent et disent au président de la République, bon, voilà, nous on va se rendre, mettre d'accord, on va faire un programme de gouvernement et puis on va vous faire savoir quels sont les noms des présidents du Conseil que nous proposons. C'est quand même ahurissant, généralement, et selon la Constitution, c'est le président de la République qui désigne le président du Conseil, qui va, lui, désigner les ministres et la politique qui va être faite. Donc déjà, on est dans un renversement total des règles des choses.
Anaïs Ginori, ça y est, cette alliance, elle marque déjà un peu l'histoire politique italienne de sa patte avec ce processus-là de proposition de chef du Conseil.
Oui, alors en fait, c'est extrêmement compliqué parce que il faut dire que la figure du président de la République, elle est fixée par la Constitution et elle existe depuis plus d'un demi-siècle, mais elle a changé et beaucoup dans l'interprétation de cette fonction par les différents présidents qui ont pris cette fonction et par les époques et aussi par les systèmes électoraux, parce que c'est clair que quand on a eu des systèmes électoraux majoritaires où il y avait un candidat un parti ou une coalition qui courait pour une élection en présentant aussi un candidat Premier ministre, le président de la République avait une facilité à indiquer ce nom de Premier ministre qui était le candidat de la coalition qui avait, par exemple, gagné. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Silvio Berlusconi ou avec Romano Prodi dans notre époque. Là, évidemment, on est dans un système qui ne permet pas qui n'a pas donné une majorité claire. Pratiquement tous les mouvements, les partis n'ont pas indiqué des candidats Premier ministre, sauf le mouvement 5 étoiles. Et c'est vrai que, par contre, le mouvement 5 étoiles, qui était le seul mouvement qui s'est présenté aux élections du 4 mars avec son candidat Premier ministre, et là, probablement, devra renoncer à ce candidat. Donc, le président de la République doit, en fait, aménager toutes ces données. Donc, je pense que c'est une première fois, mais en même temps, il y a beaucoup de premières fois en Italie, parce que je vous dis, c'est un système parlementaire, mais avec un rôle du président de la République qui a quand même de fortes garanties et qui, en certaines crises comme celle qu'on traverse maintenant, une crise politique, parce qu'on a un résultat avec plusieurs vainqueurs et donc aucun vainqueur.
Et précisons, Anaïs Adinori, qu'on ne connaîtra pas le nom du chef du Conseil ce soir, puisque le mouvement 5 étoiles a demandé au président italien quelques jours de plus pour réfléchir donc à cette alliance, former ce gouvernement d'union avec la Ligue, alors qu'il devait se rencontrer ce soir. Ludmila Kohn, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, c'est que paradoxalement, cette façon de faire va renforcer le rôle du président de la République, puisque hier, Mattarella a dit très clairement, je ne suis pas un notaire, et il a rappelé immédiatement le premier président de la République italienne qui a refusé de signer deux lois qui n'avaient pas une couverture financière, et donc il a rappelé que c'est lui qui a le dernier mot.
Ça veut dire qu'il va jouer
absolument.
Les arbitres.
Tout à fait, ça va se jouer à trois, en fait, cette question-là.
Oui, Anaïs Ginori.
Non, je voulais dire, mais d'ailleurs, en fait, le fait de cette importance de Mattarella, de président de la République italien, qu'on découvre à chaque fois un peu quand il y a ces crises, parce que sinon on en parle très peu des présidents de la République italienne, c'est un peu aussi la figure qui garantit en ce moment. Vous aurez remarqué qu'à l'étranger, il n'y a pas de panique depuis le 4 mars, malgré le fait que l'Italie, qui est quand même la troisième puissance européenne, a donné, disons, les clés du pouvoir à deux partis des extrêmes. Le fait qu'il n'y ait pas de panique ni sur les marchés financiers pour l'instant, malgré la situation de l'Italie qui a une forte dette et tout ce qu'on sait, et malgré le fait que voilà, c'est un pays partenaire essentiel pour la France, pour l'Allemagne, pour toute l'Union européenne, c'est parce que Mattarella a donné des garanties aux partenaires européens et est en train de jouer un rôle vraiment de garantie du fait que le gouvernement, quel qu'il soit, qui sortira de cette négociation qui est en cours, sera un gouvernement qui de toute manière respectera des engagements avec l'Europe.
Anaïs Ginori, en tout cas, on comprend que l'Europe, surtout, a besoin d'être rassurée face à cette nouveauté, ce tandem mouvement 5 étoiles Ligue, qui semblait impossible. Il y a quelques jours, l'Italie était plutôt sur la voie de nouvelles élections. Qu'en pensent maintenant les électeurs italiens? Écoutez les propos de cette électrice du mouvement 5 étoiles. Elle s'était exprimée au micro de RFI la veille des législatives.
Comme idée, mi piace.
J'aime bien les idées de Salvini, mais ça ne me plaît pas qu'il soit allié avec Berlusconi. Je vote 5 étoiles, je veux essayer le changement. Avant, je votais démocrate, mais ils n'ont pas changé grand-chose.
Alors on sent à travers ses propos tout le bouleversement du paysage politique italien. Une électrice du Parti démocrate, finalement tentée par la Ligue, mais qui à cause de Silvio Berlusconi a préféré le mouvement 5 étoiles. Ludmila Hakon, comment les électeurs du mouvement vivent-ils cette alliance avec la Ligue? Alors que, on le disait, ça faisait partie de son identité, est-ce que certains ne pourraient pas sentir leur vote volé?
Il y a une bonne partie des électeurs du 5 étoiles, 13% à peu, 13% à peu près, qui viennent du Parti démocrate. Et nous savons que dès la première annonce de cette alliance entre les deux, il y a eu effectivement de la mauvaise humeur, y compris par des intellectuels. Est-ce que les propositions qui vont être faites par cette coalition vont changer la donne? Je m'explique. Il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées entre hier et aujourd'hui, qui pourrait éventuellement contenter un public de gauche, par exemple la réaffirmation de la loi du revenu de citoyenneté, la suppression de la réforme sur les retraites.
On va venir un petit peu plus tard point d'accord. En tout cas, ça veut dire que le pas que le mouvement 5 étoiles doit faire vers la Ligue peut avoir déçu certains électeurs.
Absolument.
Et pour la Ligue, Anaïs Ginori, comment le vivent les électeurs? Parce que ça peut sembler une sacrée victoire, non? Un parti qui se retrouve incontournable alors qu'il n'a fait que 17% législative.
Oui, absolument. Pour Salvini, l'équation est un peu plus simple. Il a réussi justement d'abord à devenir un interlocuteur du mouvement 5 étoiles et après à convaincre Berlusconi à se mettre de côté, s'abstenir pour soutenir une manière d'abstention bienveillante qui, comme ils appellent, pour faire en sorte que le gouvernement naisse. Salvini en ce moment est un peu attire parti, on va dire un double bénéfice de cette phase. Il est clairement en train d'essayer de mettre une espèce de place sur le centre droite, enfin sur la droite italienne. En sachant que Berlusconi a quand même 85 ans, même si depuis quelques jours on a découvert qu'il n'aura plus l'inéligibilité qu'il avait jusqu'à il y a quelques semaines.
Alors la pièce Silvio Berlusconi, enfin le rôle est très important. Ludmila Hakon, c'est son retrait qui a permis le rapprochement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Pourquoi Silvio Berlusconi était un obstacle à leur rapprochement?
Tout d'abord parce que 5 étoiles c'est un parti anticorruption. Il est absolument impossible qu'un parti anticorruption s'allie avec Berlusconi. Et pour la même raison, Berlusconi ne voulait absolument pas de 5 étoiles qui veut faire une loi contre la corruption et contre le conflit d'intérêts.
Décryptage, Marie Casadebé.
La suite de notre décryptage sur l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue en Italie en vue de la formation d'un gouvernement, le correspondant à Rome du journal Les Échos utilisait ce matin la métaphore du mariage. Un mariage de raison plutôt que d'amour, d'où l'importance du contrat. Les deux parties ont dû faire un pas l'un vers l'autre ces derniers jours. Écoutez ce qu'espérait un électeur du mouvement 5 étoiles au lendemain des élections.
C'est eux qui ont remporté le plus de voix jusqu'à preuve du contraire. En plus, j'ai voté pour eux. Maintenant, a priori, je pense qu'il faut qu'ils s'allient avec la Ligue. Mais il faudrait que la Ligue se plie à leurs conditions, car les 5 étoiles ont obtenu plus de voix.
Anaïs Ginori, est-ce que le poids électoral a compté dans les négociations entre les deux parties? Du coup, est-ce que le mouvement 5 étoiles est plus fort?
Oui, il est plus fort parce qu'il a pris 32% des voix, c'est plus d'11 millions de votes, donc il est effectivement plus fort. Après, on va voir dans la composition du gouvernement, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va prendre le ministère des Affaires étrangères, qui est-ce qui va prendre le ministère de l'Économie, le ministère de l'Intérieur, donc on va bien voir, les noms et les postes ne sont pas encore révélés, ainsi que le nom du Premier ministre, qui évidemment est très important, parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est qu'en fait, ce qui... au moment où on parle, enfin, et ça peut changer dans les prochains jours, mais pour l'instant, ce qui émerge, c'est qu'ils ont fait un contrat, donc la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont fait un contrat de coalition, enfin, un contrat pour un gouvernement de changement, comme ils l'appellent, avec en 10 points, qui en quelque sorte fait le grand écart entre les programmes de l'un et de l'autre. ils auront un gouvernement avec des ministres politiques, mais le premier ministre, le chef du gouvernement, devrait être un technocrate, un nom, disons, de garantie qui soit un peu au-dessus des mouvements, qui ne soit pas de la Ligue, qui ne soit pas de mouvement 5 étoiles, et qui serait aussi toujours le nom qui peut rassurer l'Europe, qui peut dire oui, on fait un gouvernement d'antisystème, oui, on fait un gouvernement avec un programme qui est très difficile à réaliser, mais il y a un premier ministre qui est un technocrate, qui va garantir que l'Italie ne va pas aller en banqueroute et qu'il y aura quand même une vigilance économique.
Ludmila Hakon, c'est là la quadrature du cercle, trouver le chef du prochain conseil, je perds mes mots,
président
du conseil, voilà, c'est ça qui va être compliqué, parce qu'on entend, ça fait plusieurs fois qu'on entend, il faut aussi rassurer.
Alors, ils ont tous les deux dit, en particulier Di Maio, ils ne veulent pas d'un technicien, parce que pour les gens, ça veut dire technocrate. Et ils ont eu des technocrates pendant très longtemps, et ils ont été très déçus. Donc ils disent que ça doit être une personne politique. Mais politique avec des grandes compétences, avec une aura et un statut international. Il y a un nom qui circule pour l'instant, qui n'est pas encore confirmé. C'est un professeur d'économie. Il y en a un deuxième aussi, pareil, un professeur d'histoire et de l'économie. Donc, ça serait forcément quelqu'un qui a des compétences, mais qui a aussi la possibilité de rassurer d'un point de vue politique. Et on pense, les bruits circulent, que ça serait peut-être plutôt quelqu'un proche de 5 étoiles plutôt que de la Ligue. On n'en sait rien. C'est une question de rapport de force interne entre les deux.
Alors, maintenant, on va revenir à ce qui rapproche vraiment et éloigne ces deux formations. C'est quand même un tandem assez inédit. Oui. Ludmila Hakon, sur quel sujet les positions étaient les plus difficilement conciliables? Même si on peut penser qu'elles ne sont pas tout à fait conciliées, puisque le mouvement 5 étoiles a demandé encore du temps.
Oui, alors il y a ce qu'on appelle la flat tax. C'est une loi de taxation qui n'est pas progressive et qui a été très fortement critiquée par le Parti démocrate, qui a immédiatement dit qu'il va la combattre si elle est mise en œuvre, parce qu'elle va enrichir les plus riches et va appauvrir les plus pauvres.
L'idée, c'est que tous les Italiens soient imposés à 15% sur leur salaire.
Ou 30%, ils ont donné deux fourchettes. Et donc ça, c'est une proposition de la Ligue qu'elle défend depuis le début, depuis la campagne électorale. Et donc, est-ce que 5 étoiles, a priori, ne serait pas d'accord avec ça, mais semble-t-il qu'il a cédé, en tout cas, pour gagner à son tour la promesse du revenu citoyen.
Alors ça aussi, c'était donc une promesse vraiment de campagne du mouvement 5 étoiles. Anaïs Dinori, est-ce que le mouvement va pouvoir aller jusqu'au bout de cette promesse? La Ligue, elle y voyait de l'assistanat sur un revenu citoyen, c'est-à-dire un revenu de base aux alentours de 700 euros.
Oui, c'est l'équivalent un peu de ce qu'on a appelé en France le revenu universel, et c'est une promesse sur laquelle le mouvement 5 étoiles a vraiment fait beaucoup de succès de sa campagne électorale, surtout dans le sud de l'Italie, parce qu'on peut rappeler que le résultat du vote du 4 mars a dessiné une Italie vraiment divisée en deux, en trois même, avec le sud presque complètement pris par le mouvement 5 étoiles, le centre où la gauche plus ou moins résiste, et le nord vraiment avec la droite, on va dire, au centre-droite, si on veut, donc Ligue et Berlusconi. Et le mouvement 5 étoiles a fait son succès en promettant surtout aux Italiens du Sud, où il y a beaucoup de chômage, ce revenu universel, qui est effectivement dans le contrat de gouvernement que la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont signé hier à Milan, et qui devrait être la base du prochain gouvernement.
Anaïs Dinori, je suis obligée de vous couper parce qu'il nous reste une petite minute et il faut absolument que nous parlions de la question de l'Europe et de l'immigration. Ludmila Hakon, les deux partis se sont vraiment présentés comme des partis anti-européens, anti-immigration, mais est-ce que même sur ces thèmes-là, elles sont sur la même longueur d'onde?
Ils ont un peu assoupli leur point de vue. La question a été posée de renégocier les traités. À un moment donné, 5 étoiles était même pour un référendum pour sortir de l'euro, mais pour l'instant, on parle de renégocier éventuellement les traités. Ce n'est pas tout de suite à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le président de la République, comme on le disait, qui est garant non seulement de la Constitution, mais aussi des traités internationaux, et qui a son mot à dire, il a fait entendre. Donc, il n'est pas sûr que les choses aillent dans ce sens.
En tout cas, on devrait savoir dès cette semaine qui sera, donc le principaux représentants du prochain gouvernement italien. Merci beaucoup, mesdames. Anaïs Ginori, correspondante à Paris du journal La Repubblica, et Lumi Lacon, historienne spécialiste de l'Italie. Merci à toute l'équipe de décryptage, Quentin Ferral, Charles Barré, Anaïs Chikaya et Claude Battista à la réalisation.